La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour d'Elisabeth Assayag.
Remplacer les œufs dans toutes les préparations culinaires. C'est une solution alimentation du futur, Elisabeth, vous avez trouvée et ça s'appelle Yungo.
Oui, alors à la base, ça s'appelle tamago, ça veut dire œuf en japonais. Ce sont des substituts végétaux aux œufs, Raphaël. C'est un substitut de blanc d'œuf qui s'utilise exactement comme du blanc d'œuf. Vous savez qu'il existe une demande de plus en plus importante de substituts à base de plantes. Et pour la pâtisserie, c'est pas toujours évident de remplacer l'œuf, d'avoir un goût semblable et qu'on ne sente pas forcément les plantes. Et bien avec cette solution, c'est possible. C'est une réelle alternative. C'est un substitut unique à base de plantes qui permet aux professionnels de l'alimentation de remplacer cet œuf qu'ils utilisent aujourd'hui sans apprentissage, de manière très simple. Bonjour Anne-Vincent.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes Merci la cofondatrice de Tamago, de l'entreprise Yungo qui commercialise Tamago. On va s'y retrouver. Il y a un boulanger et un ingénieur agroalimentaire et à vous trois, vous avez créé cette formidable idée.
Oui, tout à fait. Donc l'idée, elle est vraiment venue du fait que, comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent diminuer leur consommation de protéines animales dans l'alimentation. Mais ça reste compliqué de remplacer les œufs aujourd'hui, et plus particulièrement en pâtisserie. Donc les œufs, c'est vraiment un des ingrédients de base du pâtissier. Et pour le remplacer, s'il veut développer des recettes végétales, en fait, il doit faire beaucoup de manipulations aujourd'hui. Donc avec Yungo, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer un ingrédient qui soit utilisable directement. Donc sans rien changer à la recette, on utilise la même quantité, les mêmes gestes, et on arrive à faire, comme vous le voyez ici, des financiers, des meringues,
sur europe1.fr.
des moelleux au chocolat, des macarons, donc toutes sortes de recettes et aussi bonnes, mais 100% végétales.
Mais par exemple, là, vous nous avez apporté une bouteille remplie de votre potion magique. Ouais. Par exemple, si dans une recette, dans un gâteau au chocolat, j'ai besoin de 6 œufs, c'est quoi l'équivalent de 6 œufs dans cette bouteille?
Mais donc ici, la bouteille, elle équivaut à 32 blancs d'œufs. Donc c'est un format professionnel de la pâtisserie. Donc lui, il travaille déjà avec des bouteilles de 1 litre de blancs d'œufs. Donc l'équivalent de 6 blancs d'œufs dans la bouteille, ce sera la même chose avec son blanc d'œuf et avec Yungo.
Donc, il n'aura pas besoin de faire des conversions ou autre. C'est simple à utiliser.
C'est très simple, ça monte en neige de la même manière que des blancs d'œufs, ça a les mêmes propriétés. Et puis, une fois qu'on a utilisé la quantité de Yungo qu'on devait utiliser pour la recette, on n'a plus rien à changer.
On peut préparer tout type de recettes?
Donc, toutes les recettes à base de blancs d'œufs, vous pouvez les utiliser avec du Yungo, donc pour avoir des recettes qui sont végétales. À partir du moment où les autres ingrédients que vous utilisez sont végétaux aussi.
Et le goût reste le même.
Le goût, je vous invite à tester. Mais c'est très gourmand.
Je crois que Riyad
l'idée, c'est vraiment que ce soit aussi gourmand.
Riyad a essayé déjà.
Alors moi, j'ai essayé la meringue et j'ai essayé le moelleux au chocolat. C'est bluffant, quoi. C'est bluffant parce que souvent, quand on a des produits de type végétarien, la bonne conscience nous font dire que c'est bon, mais en fait, c'est pas très bon. C'est toujours un peu moins bon que le produit avec les vrais œufs, le vrai sucre, etc. Et là, c'est assez bluffant, effectivement, parce qu'on voit, on a une meringue qui ressemble à une meringue, on a un moelleux qui ressemble à un moelleux. Et ce qui est très malin de votre positionnement, c'est de dire je vais pas changer la façon de cuisiner des uns ou des autres, je vais essayer de me caler là-dessus. Alors, dedans, il y a quoi, finalement?
C'est quoi?
Merci secret, à mon avis. C'est à base de protéines végétales, c'est d'origine européenne, c'est 100% naturel. Donc, on a une liste d'ingrédients qui est très, très courte, parce qu'on voulait rester au plus simple. C'est vraiment le plus naturel possible.
C'est-à-dire qu'il a fallu trouver des aliments qui avaient les mêmes propriétés que l'œuf?
Oui, exactement. Donc là, on est sur une alternative végétale de blanc d'œuf. Et donc, le blanc d'œuf, ça a des propriétés foisonnantes, donc pour monter en neige, coagulantes, émulsifiantes. Donc, il fallait vraiment réunir des protéines qui peuvent combiner ces différentes propriétés. Donc, ça a été pas mal de recherche et développement pour arriver au résultat.
Combien de temps de recherche et développement?
On a commencé le travail au mois de février de cette année, mais l'idée, elle était déjà en germe depuis
longtemps. Février 2019. Ouais. Et il n'y a pas de contre-indication alimentaire?
C'est sans allergène, donc ça convient aux personnes qui sont allergiques aux œufs et qui ont d'autres allergies parmi les allergènes majeurs. Il n'y en a pas non plus dans notre solution.
Il n'y a aucun allergène majeur dans votre composition. Très bon à savoir.
Combien ça coûte et est-ce que c'est commercialisé pour les particuliers?
Donc là, on va être commercialisé très prochainement pour les professionnels de la pâtisserie dans un premier temps. Le prix sera plus élevé que l'œuf, dans un premier temps aussi, pour des questions de démarrage, de volume, etc. L'idée, c'est de diminuer le prix progressivement et de s'ouvrir au marché des consommateurs un peu plus tard, donc quand on s'est stabilisé au niveau des professionnels.
Vous avez un atelier dans lequel vous fabriquez tout en France. Comment ça se passe au niveau de la fabrication?
Donc la fabrication du produit, elle se passe en France, oui, tout à fait. Et puis après, la fabrication des produits, ben, on a la chance d'avoir nos associés qui est boulanger-pâtissier, donc qui peut tester avec tout son réseau de chefs toutes les applications en fait, qu'on peut faire avec notre produit.
Est-ce que vous avez de la concurrence sur un produit comme ça?
Mais on a en fait de la concurrence sur un produit qui remplit exactement la même fonction que le blanc d'œuf sous le même format. On n'en a pas. Il y a des alternatives végétales, mais qui sont plus difficiles à utiliser et qui n'auront pas toujours le même résultat, aussi bien dans l'utilisation que dans le résultat gustatif, on va dire.
Vous travaillez avec des boulangers-pâtissiers en particulier, avec des marques de distributeurs. Avec qui vous travaillez spécifiquement?
Là, on travaille avec des pâtissiers. On est en train de faire des tests avec de la restauration collective, des traiteurs, donc vraiment les professionnels de la pâtisserie pour le moment en France. Mais l'idée, c'est vraiment de s'étendre autant qu'on le peut et le plus rapidement possible.
Et c'est en vente quand ?
Très prochainement.
D'accord.
Il y a des petits frères à Yumgo qui sont prévus pour devenir des substituts d'autres aliments.
Mais déjà, comme vous l'imaginez, on est parti sur le substitut de blanc, donc on va développer le substitut de jaune et le fentier, mais également des bases pâtissières. Donc, mais toujours avec la même idée, donc végétaliser simplement, sans changer les recettes et garder la gourmandise pour vraiment contribuer à une alimentation qui
et
est
là,
plus durable.
Vous êtes encore dans la recherche.
Pour le jaune et pour le fentier, oui, tout à fait. Ouais.
Ça s'appelle Yumgo et Tamago, donc, c'est le nom de l'entreprise. Merci à vous d'être venu nous la présenter. C'était la solution aujourd'hui.
Merci à vous.
Évidemment, en lice pour les trophées
de l'avenir. Pour les trophées de l'avenir dont on va vous parler
évidemment,
pendant tout
au long
janvier,
du mois de janvier sur Europe 1. Il est midi 57. Hein.
Europe 1.
On reste ensemble en ce 2 janvier. On vous emmène prendre un bol d'air à la montagne. Si vous y êtes, regardez bien autour de vous, car nous allons vous faire découvrir des innovations qui arrivent très vite dans nos stations. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Vous savez qu'aujourd'hui, on va prendre de la hauteur et un grand bol d'air direction la montagne pour parler innovation. Et si vous êtes amateur de ski, ce qui arrive va sûrement vous parler. Avant de pouvoir dévaler les pentes, il faut porter ses skis, chausser. Le plus souvent, les casiers sont situés au sous-sol du chalet ou du bâtiment qu'on occupe. Il faut ensuite marcher, porter jusqu'à ce qu'on soit au pied des pistes. Alors, une idée est née, elle s'appelle My Ski Box. Bonjour Nicolas Godlewski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de My Ski Box, qui est un service de consigne à ski. C'est vrai que ça paraît assez évident de rapprocher les consignes à ski, les casiers à ski, finalement des pistes. Comment vous est venue l'idée?
C'est très simple, hein. On est allé skier, on était arrivé en bas de la piste, on était avec nos enfants, on a enlevé les skis, on s'est dit mais pourquoi on les laisse pas là? Pourquoi il faut qu'on les ramène jusqu'au logement? Sachant que c'était le matin, et puis l'après-midi il faut revenir et puis reporter les skis dans l'autre sens. Donc l'idée elle est toute simple, en fait, c'est de mettre les casiers là où on en a besoin, juste en bas des pistes, au moment où on enlève les skis.
Alors l'idée elle vient en 2018 avec votre cofondateur, vous vous lancez et autour de vous on vous dit oui, c'est vrai que c'est une bonne idée.
Oui, tout à fait, on en a parlé autour de nous, tout le monde disait mais les consignes à ski ça existe, les consignes à ski en bas des pistes ça existe, mais en fait en bas des pistes c'est dans les bâtiments, et en fait selon les stations, les bâtiments ils sont à 20 mètres ou à 50 mètres ou à 100 mètres, et puis si votre logement il est à l'arrière de la station, en fait vous pouvez avoir une grande distance à traverser. Pas sur du plat en plus, parce que la montagne, c'est pas plat.
Avec les chaussures de ski au pied.
Avec les chaussures de ski au pied. Et donc finalement, les casiers, oui, il y en a. Des casiers qui sont juste à l'endroit où vous vous déchaussez, il n'y en avait pas.
Alors, quelle est la démarche que vous entamez? Vous allez voir les stations?
Le premier rendez-vous qu'on a eu, en fait, c'était le salon Mountain Planet, qui est au mois d'avril à Grenoble. Donc, tous les deux ans, là, ce sera encore cette année à Grenoble en avril. Et puis, on a regardé ce qui existait pour confirmer si on avait vraiment une idée nouvelle ou si, en fait, il y avait déjà des choses qui existaient. Donc, on s'est aperçu qu'on avait un marché à prendre.
C'est une idée nouvelle, oui.
Et puis, on en a parlé un petit peu aux stations, on en a parlé aux représentants des communautés de communes, au cluster montagne, là, qui est un acteur essentiel de la montagne et qui nous a beaucoup accompagnés. Et tout le monde s'est dit, bah ouais, c'est vrai, pourquoi personne ne le fait? Allez-y. Et donc, on s'est dit, ok, on y va.
Vous vous êtes lancé. Alors, comment ça marche? C'est un casier qu'on ferme, qu'on ouvre Avec quoi? Alors, avec son téléphone, avec un code?
Ça ressemble à un petit chalet dans lequel vous avez des casiers qui ressemblent à des casiers de piscine. Donc vous avez une petite porte avec un casier où vous pouvez mettre vos skis à l'horizontale, là, dans la profondeur. Et pour l'ouvrir, vous utilisez votre ski pass. Donc c'est la même petite carte qui vous permet de prendre la remontée mécanique.
Le forfait de remontée mécanique.
Exactement, qui en fait vous passez. Et ça vous ouvre votre casier. Sachant que pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment réserver et payer. Et ça se fait via une application. Donc c'est sur myskibox.net. Vous allez, vous ouvrez un compte, vous réservez votre casier pour la semaine et ensuite vous pourrez ouvrir avec votre SkiPass.
Ça signifie que je peux réserver ma semaine entière? Je réserve à la journée? Comment ça se passe? Je peux réserver pour 2 heures?
Vous pouvez réserver à l'heure, à la journée ou à la semaine. Donc à l'heure, ça peut être juste vous voulez faire une pause pour aller au restaurant et laisser vos skis juste pendant les 2 heures. Au lieu de les laisser sur les racks qui ne sont pas sécurisés, vous pouvez les mettre en sécurité dans des casiers. Ou pour une journée, si vous venez juste, vous venez pour le week-end, vous réservez du samedi au dimanche. Ou pour la semaine, sachant que le plus gros de nos clients réserve du samedi au samedi, en fait, pour toute la semaine.
Notre coach, Riyad Boulanoir.
Oh, j'adore, moi. Je trouve ça... j'adore. Alors, pourtant, j'aime pas du tout le ski. Je suis vraiment... Certainement, pour tous ces inconvénients, effectivement, se balader avec les chaussures, en marchant, en désynchronisé à chaque fois, je trouve ça malin, puisqu'on part d'un besoin, et on répond à ce besoin de façon la plus simple possible. Donc ça, c'est bravo. Combien de skis, combien de locations de box vous avez fait jusqu'à présent?
Alors, on a fait une saison pilote à Saint-François-Longchamp l'an dernier, donc on remercie de nous avoir accueillis.
Et là, cet hiver, vous êtes à Serre-Chevalier?
Cet hiver, on est à Serre-Chevalier, oui. Donc l'an dernier, on était à entre 15 et 20 réservations par semaine, les semaines de vacances scolaires et puis moins hors vacances scolaires. Donc là, on est parti avec un ensemble, donc un petit chalet où il y a 16 casiers. Donc notre objectif, c'est d'être à 100% de remplissage pendant les périodes de vacances et peut-être un peu moins en dehors des périodes de vacances.
Et ça coûte combien?
Pour les grands casiers à ski avec des casiers sur les côtés qui permettent de mettre des sacs ou des chaussures, on est à 50€ la semaine pour une famille. Donc ça permet de mettre facilement 5-6 paires de skis.
Et vous faut combien de casiers pour être rentable?
La rentabilité, en fait, le calcul, on le fait plutôt en nombre de saisons.
C'est-à-dire qu'on
vise une rentabilité sur 3-4 saisons.
Les stations sont intéressées, vous allez les démarcher une à une pour aller mettre vos casiers, je suppose que c'est en cours.
Alors on a démarché dès 2018 en fait un certain nombre de stations via des contacts qu'on a eus avec les exploitants ou avec la région ou avec des contacts en direct avec des mairies ou des comités d'agglomération ou des comités de communes. C'est pas d'agglomération à la montagne. Et donc dès la première année en fait on avait rencontré 6 stations à la recherche d'un pilote, et toutes les stations nous ont dit « c'est un super concept, on veut bien de pilote ». Alors malheureusement, on n'avait pas la capacité à être partout, donc on est parti, on a pu faire qu'une station pilote l'an dernier, là on est de nouveau sur juste une station cette année à Serre-Chevalier, parce qu'on a amélioré le concept par rapport à l'an dernier. Et là, en fait, maintenant, notre objectif, effectivement, c'est de toucher le maximum de stations.
Pardon. Ils sont amovibles, vos casiers?
Ils sont mobiles, en fait. C'est un petit chalet.
D'accord, donc en été, on les voit plus, quoi.
C'est ça. C'est un petit chalet, 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. On l'a descendu du camion début novembre 2019, là, pour le mettre à Serre-Chevalier. Et on l'enlèvera à la fin de la saison.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une autre innovation. Oui. Pour le coup, là, on n'est plus avec les skis, on est avec les bâtons.
Oui, pour se libérer du bâton de ski, ça s'appelle Clip Can. Oui, ouais, vous connaissez, je vois. C'est un système qui permet d'attacher les bâtons de ski au télésiège et donc d'éviter tout risque de les laisser tomber. C'est un système très simple, très léger. Ça pèse à peine 30 grammes et ça permet aux skieurs de téléphoner, de prendre une photo ou encore de manger, pourquoi pas, une barre de céréales sans risquer de laisser tomber ses bâtons, parce que je suis sûre qu'on a, pour celles et ceux qui vont au ski, ça leur est tous arrivé. Alors comment ça marche? C'est un crochet fixé sur chaque bâton de ski ou une sangle à clipser autour du garde-corps du télésiège pour relier les deux bâtons entre eux. Et je précise que ce sont deux ingénieurs passionnés de ski, originaires de Lisieux, âgés de 26 et 24 ans, qui ont inventé Clip Can.
Nicolas, on n'a pas parlé de vos ambitions. Vous dites l'année prochaine, si tout va bien, on sera présent dans une dizaine de stations. C'est ça l'idée de développement?
Donc c'est ça notre objectif, effectivement, de partir sur la saison 2020-2021 avec une dizaine de stations et après de se développer dans l'ensemble des stations des Alpes, des Pyrénées, du Massif central. Sachant que les Alpes, ça déborde de la France. Et puis, qui sait, dans le reste du monde.
Et le design, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi?
Oui, le design, alors c'est un des sujets essentiels qu'on nous a remonté l'an dernier. On était dans une logique très fonctionnelle et on avait un ensemble de casiers qui ressemblait à un conteneur. Là, on a un ensemble de casiers qui ressemble à un chalet et l'accueil est beaucoup plus favorable.
On reste ensemble et on continue à parler innovation et montagne aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h16.
Europe 1.
Vous rêvez d'une balade entre les sapins mais sans polluer l'environnement. Pourquoi ne pas essayer Moonbikes ? À tout de suite.
Dans la France Bouge, cet après-midi, on vous emmène à la montagne avec des services et des applications pour bien profiter de vos moments à la neige, Raphaël.
Pour aller se promener l'été en montagne, il y a la randonnée ou le VTT, mais une fois que les pentes sont enneigées, se déplacer devient, c'est vrai, beaucoup plus compliqué. Certes, il y a les raquettes, mais c'est physique, ou la motoneige, mais là, pour le coup, c'est polluant. Alors, une idée est née, celle de Moonbikes. Bonjour Nicolas Muron.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous avez inventé la motoneige écolo. Il faut dire que vous êtes ingénieur et vous avez longtemps travaillé chez Dassault. Vous êtes aussi passionné de ski. Je crois que vos grands-parents, d'ailleurs, sont en Haute-Savoie,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, pendant vos week-ends, vous avez commencé à imaginer un prototype de motoneige écolo.
C'est ça, exactement. Je me suis dit, l'été, on a le VTT, les VTT électriques, autre chose. Et l'hiver, on a à part les motoneiges, les raquettes, comme vous disiez, ou la voiture avec des chaînes, on n'a pas grand-chose. Donc, je me suis dit, tiens, je vais fabriquer quelque chose. Je vais mettre en application un peu ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur aéronautique pour créer une machine qui soit ultra légère. Évidemment, électrique, ça n'avait aucun sens de la faire thermique et qui soit facile à utiliser. Contrairement à la motoneige qui est vraiment c'est un engin assez balèze et assez difficile à conduire, je voulais faire quelque chose de facile, ultra léger, qu'on puisse mettre dans le coffre de sa voiture, qu'on puisse ranger un peu assez facilement et qui soit et qu'on voilà pour
qu'on
se déplacer,
qu'on puisse transporter, qu'on puisse finalement emmener avec soi.
Voilà, emmener avec soi, vraiment l'équivalent du VTT électrique, mais version pour la neige.
Alors je crois que les premiers essais ont été un peu hasardeux, en tout cas ça manquait de stabilité.
On a mis du temps pour trouver une solution qui à la fois qui respecte le cahier des charges qu'on s'était donné en termes de masse pour avoir quelque chose qui est avec un format innovant mais qui soit stable, qu'on puisse passer en poudreuse. Les premiers essais étaient assez catastrophiques parce que dès qu'il y avait un peu de poudreuse, la chenille commençait à creuser et on se retrouvait bloqué. Donc après on a fait d'autres versions qui marchaient mieux en poudreuse mais qui ne grimpait pas les pentes. Voilà, enfin, il y a eu pas mal de R&D pour arriver à une solution. L'année dernière, on a fini par trouver une solution. On a posé le crayon, comme on dit chez Dassault, on a trouvé une solution qui fonctionnait, donc on était ravis.
Alors, ça ressemble à quoi ? C'est un VTT électrique des neiges. Ça ressemble à un vélo. On monte dessus comme un vélo, mais il y a des chaînes.
Moonbike, c'est l'idée, c'est que on a appelé ça comme. On a donné ce nom pour donner la connotation vélo. Il y a une grosse chenille à l'arrière. Un monoski à l'avant et on se met dessus comme sur un vélo, on se penche dans les virages comme sur un vélo et ce qui est assez amusant c'est que quand des gens n'en ont jamais fait, ils montent dessus et assez facilement ils l'adoptent et donc ça rend l'objet assez facile à utiliser et quand il y a du dévers, contrairement aux motoneiges qui sont dangereuses, qui peuvent se renverser, là il n'y a pas de problème vu qu'on a une on peut se pencher.
On compense avec le poids du corps.
Voilà, exactement. Donc, résultat, c'est contrairement au motoneige, on peut passer partout, on peut aller se balader entre les sapins. C'est vraiment sympa. On a vraiment en communion avec la machine et avec la nature.
Alors, moi, je suis un peu fainéante. On pédale ou c'est électrique ?
C'est 100% électrique.
Donc, pas besoin de pédaler ?
Pas besoin de pédaler.
Ça marche tout seul ?
Ça marche tout seul, oui. Et vu que c'est ultra léger, on n'a pas besoin d'avoir une grosse puissance pour avoir une machine qui était vraiment amusante et qui passait partout.
Riyad, notre coach.
Ouais, alors moi j'aime pas le ski, mais là je trouve ça génial, ça me donne envie quoi. Ça me donne envie d'aller faire du moonbike au travers. Bah, pour
merci.
Le freinage, c'est la même chose quand
c'est
on freine,
chenille,
on freine,
oui.
C'est la chenille qui freine.
Vu que c'est assez léger, on a une distance d'arrêt qui est inférieure à celle de la motoneige, donc c'est assez sécurisé. Là par exemple, on travaille cette année à Avoria. Pour le déplacement au milieu de dans une station où il y a pas mal de monde, c'est moins dangereux vu que ça s'arrête facilement et c'est moins encombrant.
Et en termes d'autonomie alors ? Parce que c'est toujours le problème de l'électricité, c'est quelle autonomie on a ? Est-ce qu'on reste planté en haut de la montagne ?
Ça dépend un peu du cas d'utilisation. Nos essais d'autonomie sont encore en cours. En tout cas, on a plus d'une heure en montagne en conditions un peu sévères. On n'a pas encore fait d'essais en plaine pour nos amis canadiens, mais on espère que ça sera forcément plus.
Et une commercialisation prévue pour ?
Alors, parce que ça, c'est important.
Ouais, important. Donc là, on commence à on a
ça y est, les premières machines
là,
sont livrées.
On a posé le crayon l'été dernier.
Courchevel, Saint-Gervais.
Courchevel, Saint-Gervais, Combloux et Avoria.
Donc, quatre stations. Et que disent les loueurs de cette invention ?
Les loueurs sont tous intéressés par des essais. Les loueurs de motoneige ou les parcs d'aventure comme Evolution 2 ou d'autres parcs avec qui on travaille, qui sont vraiment intéressés parce que en fait ils proposent des motoneiges, sauf que ça fait peur aux gens, donc
c'est gros, ça fait peur aux gens, c'est
polluant, donc c'est absolument pas tout public. Donc là c'est une façon différente. C'est une activité vraiment
et
différente à proposer aux touristes.
Je monte dessus comme je monte sur un vélo. Ouais,
je crois qu'il a vraiment envie d'essayer.
Ouais. Je vais vraiment essayer. Non, où c'est... À Avoria, vous m'avez dit. Je vais faire un tour.
On a trouvé un super outil aussi pour les randonnées, Elisabeth.
Oui, tout à fait. Ça s'appelle Mikes, M-H-I-K-E-S. C'est une application grenobloise pour les balades en montagne. Sur l'écran, un traceur GPS qui conduit les randonneurs depuis leur domicile jusqu'au point de départ de la promenade sur toute la durée du parcours, avec une prise en charge totale de l'itinéraire et une précision à 5 mètres près. Elle vous indique l'appli, votre situation en temps réel, un pourcentage de progression. Et voilà, ça nous permet de savoir où on en est et où est-ce qu'on peut se poser pour un pique-nique.
Exactement. Hein Nicolas Muron, vous essayez de développer, je crois, l'usage de la motoneige électrique aussi pour essayer de démocratiser un peu les choses, parce que la motoneige classique, ça n'intéresse pas forcément les jeunes. Ils sont beaucoup plus tournés vers l'écologie. Ils se disent que c'est polluant aussi. Avec votre système, finalement, on allie les deux.
Exactement. Effectivement, la motoneige, on ne connaît pas très bien ici en France. C'est surtout 80% c'est aux États-Unis et au Canada. L'usage
courant et quotidien, quasiment quotidien.
Quotidien et le côté ludique de la motoneige, c'est essentiellement là-bas. Mmh. Et c'est très segmenté. 80% des utilisateurs sont des hommes, déjà. L'utilisateur moyen à 45 ans, les jeunes boudent les motoneiges parce qu'ils trouvent que c'est un peu ringard, que c'est cher, surtout que c'est très cher. On n'a pas parlé du prix, mais c'est plus de 12, c'est presque 15 000 dollars.
Il faut inventer la trottinette pour neige, en fait.
Voilà, l'idée, c'est de faire une machine qui soit vraiment pour les jeunes, pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes. Enfin, vraiment, qui n'est pas pour ceux qui aiment la conduite facile comme les sensations fortes. Enfin, voilà, on peut soit se balader tranquillement entre les sapins, soit s'amuser, si on est un peu plus casse-cou, à faire des dérapages, à prendre des bosses, à faire des sauts.
Comme
en VTT. On a vraiment ces multi-usages.
Vous parliez du prix, justement. Quel est-il, ce prix ?
On va communiquer nos prix au courant de l'hiver. Mais l'idée, c'est que ça soit deux fois moins cher qu'une motoneige, minimum. Donc, en tout cas, moins de 6 000 euros, on précisera nos prix.
À l'achat. Ouais. Et il y aura évidemment la possibilité de le louer à la journée dans les différentes stations.
Là, on travaille avec des loueurs pour faire des balades entre les sapins. Enfin, voilà, proposer à la demi-journée sur des circuits balisés. Donc voilà, c'est en cours.
On reste ensemble et on continue à parler innovation et montagne sur Europe 1.
Il est 13h25. Europe
1. Comment aider les personnes ensevelies en cas d'avalanche ? Un nouveau système français de secours en montagne existe. Il s'appelle Xtract.
Partir au ski, profiter de la montagne, c'est d'actualité et on vous en parle cet après-midi dans La France Bouge, Raphaël.
Chaque hiver, on déplore des accidents dans les stations de ski, avalanches, skieurs qui se perdent en randonnée. Les repérer dans ces conditions n'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est vrai. Il existe pourtant des détecteurs de victimes d'avalanches, mais les systèmes sont relativement coûteux. Or, un Français a eu l'idée de créer une appli. Bonjour Titouan Parent.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Xtract. Vous avez fait du ski, je crois, à haut niveau jusqu'à l'âge de 17 ans. Vous avez commencé, vous étiez tout petit. Hein. Vous êtes presque né sur les skis.
C'est ça. J'ai commencé peut-être vers 18 mois. Donc,
du côté de Font-Romeu
Des Pyrénées, exact. Et puis après, il a fallu bouger dans les Alpes, en Savoie, parce que c'est quand même là-bas que ça se passe.
En mai 2018, vous avez participé au hackathon du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Il cherchait, je crois, des gens pour développer une solution contre les avalanches.
Exactement. Il mettait sur la table tout un tas de problématiques, et dont une qui était qu'ils avaient développé un brevet qui expliquait comment localiser en fait, des victimes ensevelies sous les décombres. Et de par mon passé de skieur, l'avalanche semblait un bon cas d'usage pour commencer à travailler sur cette problématique-là.
Du coup, vous avez travaillé, vous avez même gagné le concours.
Effectivement, on a été récompensé à ce concours-là, donc ça nous a offert le soutien du CNES pour toute la partie développement technologique. L'hiver dernier, on était avec eux, avec vraiment François-Xavier, d'ailleurs, que je remercie, qui était à creuser des trous avec nous dans la neige pour s'assurer de la faisabilité technique de la solution.
Oui, alors creuser des trous parce que ça y est, la solution est prête, elle a été testée. Imaginons, je suis prise dans une avalanche, je vais déclencher mon appli Xtract et comment est-ce que vous allez faire pour me repérer ?
Alors aujourd'hui, en fait, on va compter sur les témoins qui skieraient avec vous pour lancer l'alerte. Ça se passera de façon très simple en appuyant sur un bouton qui transmettra la position satellite de l'accident aux secouristes. Et pendant le temps que mettront les secouristes à venir sur place, ça transformera en fait les téléphones des gens présents sur site en détecteurs de victimes d'avalanche pour vous aider à savoir plus précisément où est la victime.
Ça veut dire que ma position est transmise, ou en tout cas la localisation de la zone, et ensuite les téléphones, même s'il n'y a pas de couverture, ça fonctionne.
Alors ça se passe un peu en deux temps. La première partie, vous transmettez votre localisation de satellite de l'accident qui permet juste aux secouristes de venir sur place. Et ensuite, on va utiliser en fait les signaux.
On va resserrer la zone.
Voilà, exactement. En fait, on va utiliser les signaux émis par le téléphone qui est sous la neige, donc Wi-Fi, Bluetooth, satellite, qui vont être captés par les appareils au-dessus pour calculer la position plus précise. Et cette partie-là de recherche fine ne nécessite pas de réseau téléphonique. Voilà.
Ça ne nécessite pas donc de couverture 3G, 4G.
L'appel au secours, nécessite un réseau GSM, donc pour envoyer un SMS, ou le réseau 4G, donc pour envoyer la position grossière de l'accident. Par contre, la localisation à courte portée entre les victimes et les témoins présents sur site ne nécessite pas de réseau au sol, en fait, d'antenne, tout ça.
Ce qui vient aussi en plus, ce sont les consignes, manifestement, qui vont avec l'appli, c'est-à-dire que vous avez pensé à la personne qui est ensevelie, à lui donner, si en tout cas elle est consciente et en capacité de le faire, lui donner des conseils pour essayer de résister le plus longtemps possible.
Alors à la personne qui est ensevelie, même si il faut être honnête, quand on est sous une avalanche, on peut rien faire. Hein. Mais c'est surtout en fait les gens qui sont au-dessus. On s'est rendu compte que aujourd'hui, dans un accident d'avalanche, mais comme un accident sur piste, puisque le système permet aussi d'envoyer un SOS pour un accident sur piste, ça c'est de donner de la valeur aux témoins qui sont déjà sur place et qui aujourd'hui en fait sont en attente des secours, ne font rien ou même des fois font les mauvais gestes. Bouger une victime qui aurait un traumatisme au niveau du rachis serait une mauvaise chose à faire. Donc effectivement, en attendant que les secours arrivent, on aimerait donner les bonnes consignes.
Riyad.
Je trouve ça. Il n'y a pas besoin d'appareil additionnel à brancher sur son smartphone.
Non, c'est l'avantage, c'est
vraiment juste une app, quoi. C'est juste une app. Je trouve ça très malin parce que généralement, il y a déjà des systèmes comme ça qui existaient, mais qui demandaient à acheter ou à louer un appareil particulier. Et ça agissait un peu comme le système d'alarme. C'est, vous le prenez une fois que vous avez été cambriolé, quoi. Donc c'était toujours un peu trop tard. Là, ce qui est sympa, c'est de convertir l'application et le téléphone en outils de recherche de proximité, donner les conseils effectivement parce qu'on est complètement paumé quand ça nous arrive, on sait pas du tout quoi faire, et effectivement avoir les premiers conseils, très malin. Ça coûte combien?
Alors ça reste encore à définir forcément. L'hiver dernier, on parlait d'une étude de faisabilité technique. Cet hiver, on se concentre sur l'étude de faisabilité d'usage.
Oui, donc parce que l'appli est en test en ce moment.
Voilà, c'est ça. Elle n'est pas disponible sur les stores. Donc l'idée cet hiver, c'est de le mettre dans la main d'utilisateurs réels, peut-être des gens assez ciblés, peut-être des moniteurs de ski, peut-être des professionnels, pour voir la manière dont ils utilisent l'outil et éventuellement penser à un déploiement public probablement l'hiver prochain.
Voilà. Donc hiver 2020, saison 2020-2021.
Exactement.
Vous avez parlé des consignes, vous avez parlé des personnes qui sont autour. Qu'est-ce qui se passe si la personne est seule quand elle est prise sous une avalanche ?
Eh bien, aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de chance. Peut-être demain, effectivement, c'est une fonctionnalité qu'on a envie de développer, c'est de la détection d'accidents automatiques, comme il se fait pour les motards, par exemple, en utilisant tout ce que permet un téléphone, donc les capteurs sensoriels, donc gyroscope, accéléromètre, tout ça, et d'autres capteurs qui nous permettront, et on est assez confiant dans notre capacité à faire un système comme ça pour détecter l'ensevelissement.
Elisabeth ?
Donc on a besoin de... Les capteurs suffisent, on n'a pas besoin de réseau.
Effectivement, aujourd'hui, en fait, on compte sur les témoins qui alerteraient de manière manuelle l'accident.
Mais il faut pouvoir.
On parle des témoins, parce que la plupart des gens qui sont sortis aujourd'hui des avalanches, c'est par des gens qui skient avec eux. Donc on compte là-dessus pour l'instant, mais à terme, comme je disais, ça serait... on va se pencher sur la possibilité de créer un algorithme concrètement qui détecte automatiquement l'ensevelissement et qui envoie le SOS en disant je suis grossièrement là, voilà, grossièrement là, pour qu'ensuite quand les gens viennent sur place, eh bien ils puissent avoir la deuxième partie de la recherche plus précise de la victime ensevelie.
L'idée vous est venue comment ? Vous avez déjà vécu ce genre de situation ? Vous avez déjà été témoin de ce type d'accident ?
Alors, j'ai déjà vécu ce moment. Effectivement, plus jeune, j'étais parti me balader sur les pistes en t-shirt. C'était fin de saison. On n'avait pas forcément... on n'était pas équipés. Avec trois de mes amis, on s'est effectivement fait ensevelir. Alors, il n'y a pas eu de graves conséquences. Ça venait de là, en fait, ce projet. C'est un peu l'idée de rapprocher les deux mondes. Celui d'avant... qui était mon passé de skieur, en fait. Et puis après, j'ai fait des études d'informatique. Mmh. Ça faisait sens aussi de relier un peu tout ça. Toute la famille est dans le ski, moniteur de ski, tout ça. Donc, mon frère est en équipe de France. C'était un sujet qui me tenait à cœur, forcément.
L'intelligence, elle est de plus en plus présente, qu'elle soit intelligence artificielle ou technique, nouvelle technologie, dans les stations de ski, Elisabeth. Vous en avez trouvé une qui fait école. Hein.
Tout à fait. Le village de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, qui a mis au point une application destinée aux touristes, aux riverains. Alors eux, ils ont tout. On peut appeler ça une station de ski intelligente. Hein. Piste de ski, piste de vélo, menu de la cantine. Hein. Les plans interactifs de ski l'hiver, les plans de vélo pendant l'été. Tout un tas d'informations. Comme la fréquentation des installations, le damage des pistes autour de cette station de la ville de Montgenèvre dans les Hautes-Alpes.
On reste ensemble et on continue sur Europe 1 à parler innovation et montagne aujourd'hui.
Il est 13h35.
Europe 1.
Restez avec nous, la montagne, c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans La France Bouge avec nos invités. On continue à en parler sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1.
La montagne, ça vous gagne. On en parle cet après-midi dans La France Bouge, Raphaël, avec vos invités.
Avec Nicolas Godlewski, cofondateur de MySkiBox, Titouan Parent, fondateur de X-Track, et Nicolas Muron, fondateur de Moonbikes. Notre coach aujourd'hui, c'est Riyad Boulanoir, cofondateur du compte Nickel et fondateur de La Méthode Boulanoir. À mes côtés, bien sûr, Elisabeth Assayag. Elisabeth, on parle innovation et montagne. Les stations de ski qui se mettent de plus en plus à l'écologie.
Oui, parce que là aussi, ça bouge. Hein. Par exemple, le domaine skiable d'Arèche-Beaufort qui s'efforce depuis sa création en 1947, hein, donc ça date pas d'aujourd'hui, de ne pas dénaturer son environnement. Certaines comme Avoria ou les Ors sont devenues entièrement piétonniers. D'autres encore favorisent la mobilité douce, à l'image de Val Thorens, qui a adopté la première navette autonome. Courchevel ou Peyragude, elles ont opté pour des dameuses hybrides. Et pour rejoindre la Plagne ou les Arcs, en laissant sa voiture au garage, on emprunte le funiculaire au départ de la gare SNCF de Bourg-Saint-Maurice. Donc il y a plein de choses
qui sont en train d'émerger, qui
se mettent en place au sein de toutes ces stations de ski qui étaient un peu vieillissantes.
Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez les uns les autres, Nicolas Muron peut-être, vous qui êtes un peu dans le mouvement avec cette motoneige un peu particulière?
Oui, c'est sûr, parce que on a reçu des contacts de stations de ski qu'on n'avait pas contactés. Ils sont venus d'eux-mêmes quand ils ont entendu parler de Moonbikes, parce qu'ils sont vraiment concernés par ça, que ce soit, enfin il y a plein de raisons, parce que je prends toujours l'exemple des motoneiges, mais c'est complètement absurde quand on soit dans un univers comme ça de montagne d'avoir une grosse machine comme ça qui fait un boucan d'enfer et qui sent vraiment très mauvais. C'est une aberration. Donc on sent vraiment que les stations sont assez unanimes là-dessus et ils sont vraiment adeptes de ce genre de solutions, ainsi que pour d'autres domaines d'application dans leur station.
Oui, les choses changent, Titouan.
Oui, effectivement, je sais que nous, on réfléchit aussi à des manières de concevoir notre service de manière un peu comme ça, responsable. On voudrait se positionner en tant que... promouvoir sensibiliser à la sécurité, forcément c'est notre mission, mais on aimerait aussi de notre côté profiter de toucher tous les skieurs pour leur parler effectivement de la pollution. Il y a des associations qui passent après nous l'hiver pour récupérer tous les mégots, tous les papiers, et effectivement le fait de le dire aux gens, ça pourrait permettre d'améliorer les choses.
Il y a encore beaucoup de travail à faire, Nicolas Godlewski.
Nous, on est sur un service de casier là qui est, j'aurais du mal à qualifier d'écologique. Par contre, notre participation, c'est qu'on est sur du temporaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas dénaturer l'environnement. Alors, on n'enlève pas les pylônes.
Ça y participe,
voilà, les pylônes sont toujours là. Hein. Par contre, nous, on fait notre petit geste en disant, on vient là juste pendant la saison. Une fois que la saison est finie, on va ailleurs.
On retire l'équipement et on n'abîme pas le paysage ni la nature. Riyad.
Et on n'a toujours pas trouvé de méthode pour enlever ces téléphériques qui passent leur temps à tourner, qui consomment de l'électricité, voire des funiculaires. On n'a toujours pas trouvé quelque chose qui permettait de simplifier cette empreinte carbone.
Peut-être que les...
Et dénaturer cette montagne, quand je vois ces gros pylônes là, pour partir d'un endroit et revenir au même endroit, je me suis toujours posé la question de vraiment l'intérêt écologique là-dessus.
Titouan.
Non, je réfléchissais, ce serait
un bon
projet.
Non, il n'y a pas de...
Ce serait un bon projet.
Bon, alors ce sera le prochain.
Alors, vous avez
peut-être
tout à l'heure...
Peut-être avec les Moonbikes.
Vous avez parlé d'un cluster. Il y a quelque chose quand même qui se passe. Il y a un écosystème qui s'est formé. Il y a des gens qui travaillent autour de la problématique de la montagne, justement, alors que ce soit sur l'intelligence artificielle ou sur le côté plus écologique. On sent que les choses sont en train de changer.
Oui, donc c'est clair que c'est un sujet... qui revient dans toutes les discussions aujourd'hui, tous les événements autour de la montagne, le sujet de développement durable, comment on arrive à améliorer la mobilité. Il y a quelques semaines un colloque sur la mobilité durable spécialement dans les stations. Comment on fait pour que les gens ils arrivent pas forcément tous en voiture jusqu'au dernier kilomètre, parce que ça représente une pollution énorme. Donc il y avait l'exemple d'Avoria hein, qui est effectivement complètement piéton. Alors il faut pas juste déplacer le problème, hein, il faut que les voitures soient suffisamment bien gérées, mais c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Oui.
Titouan.
Également aussi, pour en avoir entendu pas mal parler effectivement dans les AG de ces différents clusters d'entreprises, du cluster montagne notamment, la montagne c'est quelque chose d'assez fragile, qui se fragilise de plus en plus. Les stations de ski réfléchissent à des moyens de faire profiter de la montagne toute l'année, y compris l'été. Et effectivement, Extract, on aimerait aussi se positionner sur tout ce qui est randonneur. L'été, on y offre 4 saisons, en fait.
Elisabeth.
Oui, alors les stations de ski sont sensibles à l'écologie, hein, vous le dites, hein, c'est devenu un enjeu majeur, mais les investissements aujourd'hui les plus importants sont toujours en direction de l'enneigement.
Je crois qu'environ 95 à 98% du chiffre d'affaires des compagnies donc de remontée mécanique est généré l'hiver. Donc forcément, pour l'instant, ils sont dans ce modèle-là. Mais je pense sincèrement qu'ils cherchent des solutions pour passer sur des offres 4 saisons.
Et pourtant, Elisabeth, si on regarde, hein, le modèle économique est en train de changer. Il y a des chiffres qui le montrent.
Oui, parce qu'il y a eu des rapports de la Cour des comptes qui ont montré récemment que les fréquentations étaient en berne pour certaines stations à cause du manque de la neige, du manque de neige, bien sûr. Donc il faut réinventer, hein, cette montagne. C'est en cours. C'est aussi pour cela que vous êtes ici. Les stations misent de plus en plus sur le digital. Par exemple, vous avez Val Thorens en Savoie qui a été la première, hein, qui a, dans la mise à disposition du Wi-Fi pour les skieurs. Bon, c'était en 2011, mais voilà, c'est là où tout a commencé. Vous avez la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a débloqué 50 millions d'euros pour 2016-2021. En faveur de l'enneigement artificiel. Et il faut aussi rénover les logements pour faire revenir le plus de touristes pendant l'été, hein, ce que vous étiez en train de dire, les 4 saisons, parce qu'il y a un vrai problème de logements vides en dehors des saisons d'hiver.
Et de taux d'occupation. Riyad Boulanoir, notre coach.
Non, j'avais oublié, je pensais au téléphérique, mais j'ai oublié les canons à neige, les trucs pour damer les pistes.
Les dameuses, oui.
Ouais, les dameuses, etc. Je me demande si on n'est pas en train de bousiller l'écologie pour faire plaisir à une poignée de Parisiens qui s'empressent d'aller.
Il n'y a pas que les Parisiens qui vont skier.
Y en a beaucoup, enfin c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est souvent un truc de mode, dans les citadins connaissent la montagne uniquement l'hiver et certainement pas l'été. Et donc je me dis, il me paraît surtout en 2020 maintenant, je pense qu'il me paraît super urgent de faire quelque chose de façon écologique et durable. Quoi.
Ouais, je suppose que vous êtes d'accord, Nicolas.
Oui, parfaitement. Ouais. Et les stations de moyenne montagne qui ont des problèmes d'enneigement sont aussi intéressées par Moonbikes, parce que justement, on n'a pas besoin de beaucoup de neige, on n'a pas besoin de dameuse, on n'a pas besoin de canons à neige.
Vous êtes une solution complète.
Voilà, solution complète, clé en main. Non mais franchement, c'est une activité qui nécessite pas toutes les infrastructures. C'est pour ça que ça les intéresse de proposer ça à leurs touristes.
Et qui permet d'avoir aussi le plaisir de la glisse, parce que c'est quand même ce qu'on va chercher quand on va à la montagne l'hiver.
Oui, exactement. Que ça soit pas ceux qui veulent autre chose qu'une balade en raquette peuvent retrouver des sensations de ski et surtout le silence d'être en la sensation de vitesse et de silence que nous rappelle du ski, on les retrouve dans la Moonbike.
Merci à tous les trois d'être venus parler montagne et innovation avec nous sur Europe 1 aujourd'hui.
Il est 13h45.
Europe 1.
Restez avec nous. Dans quelques minutes, on va s'intéresser à une entreprise qui fête ses 85 ans. Les Bretzel Burger, c'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est les Bretzel Burger. Bonjour Emmanuel Götz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes le PDG de cette institution, je peux dire comme ça, alsacienne, qui a démarré avec la famille Burger en 1935, parce que c'était une famille de boulangers. Et dans les années 50, elle décide de se consacrer exclusivement au Bretzel.
Oui.
Pourquoi ? Alors, le bretzel, c'est une institution.
Le bretzel, c'est une des bases de l'alimentation en Alsace, on va dire, mais surtout en Alsace, on ne la connaît pas encore assez ailleurs. C'est ce fameux pain qui a été mis au point par un boulanger au Moyen-Âge, où on peut voir trois fois le soleil. Hein. Il y a trois trous, donc on peut voir...
Oui, alors il y a plusieurs explications sur l'origine, effectivement, de la forme du bretzel.
C'est ça. Alors chez nous, il est noué à la main. En Allemagne, il y a des robots qui le font aujourd'hui, mais il est beaucoup développé aussi à New York, aux États-Unis. Ça vient en général d'une culture européenne de l'Est, Pologne, Allemagne, et il a été exporté un peu partout, notamment aux États-Unis.
Il y a une légende aussi sur l'histoire du bretzel. Je crois qu'on trouve des traces de la consommation de bretzel depuis le 8e siècle.
Oui, c'est ça, c'est au Moyen-Âge.
Et même avant, même chez les Romains, ça existait sous une autre forme.
Oui. Alors souvent, d'ailleurs, le bretzel, on connaît peut-être plus parfois le bagel. Ils sont originaires des mêmes lieux et on les retrouve un peu partout.
Alors qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pain, dans sa fabrication ? Racontez-moi.
Alors, c'est un pain comme une baguette, on va dire, alors pour la base au niveau de la farine. Mais après, on va y rajouter de l'huile de colza, on va y rajouter du malt, de la levure. On va faire façonner ce pain, en faire un boudin long qu'on va nouer et ensuite fermenter. Et juste avant la cuisson, la recette, le succès, ça va être de le doucher sous de l'eau salée.
Douche à l'eau salée.
Ouais, rapidement, pourquoi faire rapidement.
Pour que la pâte durcisse.
Oui, ça donne une petite croûte lors de la cuisson et c'est ce qui donne le côté brillant, le goût, la couleur du bretzel.
Le côté craquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. La fabrique, elle a déménagé, elle était dans la Grand Rue à Strasbourg au départ.
C'est ça, oui.
Elle n'est plus là aujourd'hui.
Non. Maintenant, la Grand Rue, c'est une rue commerçante dans le centre de Strasbourg. Il y a eu plusieurs fois des déménagements et ma femme et moi avons repris l'entreprise en 2001. Elle était en dépôt de bilan et on a construit en 2002 une nouvelle usine à Heurt. Quelques kilomètres de Strasbourg.
Vous avez repris cette usine, pourquoi ? Parce que vous êtes alsacien, mais vous étiez à Paris à l'époque avec votre épouse.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à la reprendre ?
Bah écoutez, moi je voulais me mettre à mon compte avant 30 ans. Donc j'avais 29 ans, j'ai cherché dans différents horizons, à Paris, en Alsace et d'autres régions, et il s'est avéré que la société a déposé le bilan juste un week-end quand moi je suis rentré en Alsace. Et donc j'ai trouvé que c'était un signe. Il y avait 20 autres entreprises qui voulaient la reprendre, et finalement c'est ma femme et moi qui avons été retenus, parce que on s'engageait à construire une nouvelle usine, il y avait un peu moins de 100 personnes déjà à l'époque, il y avait 12 magasins, il y avait un petit site de production. Et nous avons construit cette usine pour faire un développement, non pas que sur la bretzel, parce que c'est vrai que la bretzel à l'origine c'est essentiellement consommé par les Alsaciens et au marché de Noël, et ça suffisait pas pour développer une usine. Donc on a plutôt eu l'idée de faire des bouchées apéritives à base de pâte à bretzel au départ, donc miniaturisées. Et ensuite, des gros pains surprises comme ce pain surprise serre que vous trouvez là, que
qu'on nous voit
proposons
sur Europe 1.fr
autour des fêtes. Voilà, donc vous, d'ailleurs, on peut l'acheter effectivement dans nos magasins, ce pain surprise.
Vous avez 14 magasins en Alsace aujourd'hui, 220 personnes qui travaillent pour vous.
C'est ça.
Je vous ai entendu dire la bretzel. Alors là, évidemment, bon, il va falloir qu'on explique. Parce qu'on dit le bretzel ou la bretzel ?
Alors, on peut dire les deux.
Il y a une histoire,
nous,
là, c'est
nous, consensuel. On a définitivement pris le genre de la bretzel au niveau féminin.
Parce qu'il y a une anecdote.
Voilà, c'est ça. L'année dernière, des étudiants nous ont approchés de l'école ECAM et nous ont proposé d'envoyer un bretzel dans l'espace.
Alors, la moi, mission ça, Apollo bretzel.
C'est ça. Je trouvais ça sympathique, mais je me suis dit, si déjà on peut en envoyer un, on pourra en envoyer deux. Et donc, celui qui ira le plus haut sera ou le garçon ou la fille, et puis on dira une fois pour toutes le ou la bretzel. Et c'est la fille qui est allée le plus haut.
Ouais, on a gagné.
Et donc voilà, c'est la bretzel
comme
maintenant,
toujours, pardon.
Définitivement.
Bon, il y a 4 ans, vous avez doublé la taille de votre usine. On était à 4000 m², vous êtes passé à 8000. Vous êtes également très impliqué dans une démarche RSE pour limiter la consommation d'énergie, par exemple. C'est quelque chose qui vous importe.
Oui, il y a 4 ans, il s'agissait de doubler l'usine, passer de 4000 à 8000 m², mais surtout pas de doubler les consommations énergétiques. Moi, je suis très fier pour mon entreprise. On est engagé au niveau de la planète depuis plus de 15 ans. En 2004, on a participé à la création d'une association de développement durable. On ne parlait pas encore de RSE, on parlait de développement durable à l'époque. On s'est engagé sur plusieurs thèmes.
Oui, parce que vous avez fait disparaître l'huile de palme, notamment de vos produits.
Oui, c'est ça, il n'y en a plus. On s'est engagé sur le tri à l'époque, on s'est engagé sur l'origine des ingrédients, hein, qu'ils soient locaux, sinon français, pour essayer de réduire au maximum les kilomètres parcourus, sur le gaspillage aussi, parce qu'on a des surplus alimentaires, donc nous on donne tout à la Croix-Rouge depuis cette période-là, tous nos excédents de produits, ou maintenant aussi on les brade dans nos magasins avec l'application Too Good To Go.
Too Good To Go, qu'on connaît bien.
C'est excellent, hein, on a permis à donner tous les jours, on permet dans nos 14 magasins de donner plusieurs centaines de repas aux gens pour presque rien, quoi. Et nous, avant, on le donnait à l'alimentation animale. Donc on en fait encore, ou compostage, ou méthanisation, mais c'est quand même mieux de pouvoir le consommer, soit par la Croix-Rouge et l'application immédiatement.
Et Too Good To Go. Voilà. Riyad, notre coach, Riyad Delanoir.
Je vais lui dire bravo. Je vais lui dire bravo. Reprendre une société en dépôt de bilan avec un moral, certainement aussi des salariés qui ne devaient pas être bien, arriver à la doubler, arriver à allier la tradition, l'économie et l'écologie. Vraiment chapeau bas, bravo.
Merci.
La suite, c'est quoi justement? Vous avez commencé à travailler le bretzel différemment, vous l'avez fait entrer aussi dans la grande distribution, y compris dans le monde des surgelés. Vous essayez de démocratiser au maximum, c'est ça l'ambition?
C'est ça, alors on essaye de développer à la fois le bretzel, mais aussi d'autres pâtes, c'est-à-dire on développe les bagels, on en a fait des mini, on développe les burgers, on en a fait des mini, on développe les hot dogs, on en a fait des mini. Enfin, moi je parcours le monde pour essayer de trouver des produits à faire en mini et après à développer en apéritif, parce que l'apéritif c'est le moment convivial, ça correspond à la gastronomie française on a toujours quelque chose de nouveau à inventer. Nos équipes, elles travaillent, on met au point plus d'une cinquantaine de recettes par an afin d'avancer et de développer l'entreprise. On l'a repris en 2001, on faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait aujourd'hui 25 millions et on a effectivement créé 120 emplois en plus. Donc, mais bon, c'est un engagement au quotidien. Je voulais encore dire deux mots sur la RSE également.
Oui, c'est important.
Puisqu'on s'est engagé également avec le label PME+.
Oui.
On fait partie de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, regroupe environ 900 PME. On est une centaine à avoir ce label PME+, aujourd'hui. L'idée, c'est de faire attention à tout ce qu'on fait dans nos entreprises en ayant une action d'amélioration et le mesurer. Pour le mesurer, on s'est même engagé cette année, nous, Bretzel Burger, dans la démarche ACT, Assessing Low Carbon Transition. Donc c'est l'ADEME, l'agence pour la maîtrise de l'énergie qui l'a lancée en France. Et l'idée, c'est de mettre le changement climatique avant tout le reste. Parce que si on augmente de plus de 2 degrés en 2100, tout le monde le sait maintenant, ça va être mauvais pour nos personnes, mais aussi pour nos entreprises surtout. Donc on s'est engagé. On avait fait un bilan carbone en 2009. On en refait un cette année, en 2020. Et on en refera un en 2025, ce qui permettra de voir comment on a vraiment orienté nos projets et nos investissements afin d'aller vers une économie bas carbone.
Et vous pourriez prétendre à beaucoup plus de labels, on en connaît ici,
oui.
Parce que vous cochez énormément de cases. Hein.
D'accord, bah écoutez,
et on va vous y aider évidemment. C'est l'entreprise qui va bien, c'est les Bretzel Burger. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Riyad qui était notre coach aujourd'hui.
Merci Raphaël, merci à toutes
merci
et à tous.
Merci Elisabeth.
À demain,
encore
Raphaël.
Meilleurs vœux à tous et on se retrouve effectivement dès demain.